أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللہ تعالیٰ کے فضل سے
Par la grâce d'Allah débute aujourd'hui la Jalsa Salana de la Jamaat de l'Allemagne. Dans la plupart de ces pays où la Jamaat Ahmadiyya a été établie, la Jalsa Salana, cette rencontre, est l'un des événements importants de la Jamaat Ahmadiyya. À une époque, il était très difficile pour les Ahmadis de l'Inde de participer à la Jalsa Salana à Qadian en raison du coût du voyage. Voire pour certains, ce voyage était impossible. C'est pour cette raison que le Messie Premier Islam avait conseillé aux Ahmadis de faire des économies au cours de l'année afin de pouvoir venir à la Jalsa Salana. Or, aujourd'hui, par la grâce d'Allah, dans les pays développés ou dans d'autres pays où la Jamaat Ahmadiyya a grandi, les Ahmadis participent à la Jalsa Salana en venant dans leur voiture. Et leur nombre est si grand que les organisateurs de la Jalsa Salana doivent prendre des dispositions particulières pour le stationnement des voitures. Cette tâche requiert beaucoup d'efforts de leur part. Les aïeux de nombre d'entre vous venaient à la Jalsa Salana au prix de grandes difficultés. Ils participaient à la Jalsa Salana au prix de grandes difficultés. D'autres ne pouvaient y participer en dépit de leur ardent désir. Or, toutes ces facilités qui sont à votre disposition, ce bien-être financier, l'aisance dans laquelle vous accomplissez ces voyages, l'occasion que vous avez de participer à la Jalsa Salana, tout cela vous a-t-il poussé à être reconnaissant envers Dieu et à accroître votre foi? Possédons-nous la même foi que possédaient nos aînés? Avons-nous établi la même relation qu'ils nourrissaient avec lui? Avons-nous atteint le même niveau? D'aucuns parmi ses aînés n'ont pas eu la chance de rencontrer le Messie Promet l'Islam durant sa vie, en dépit de l'avoir accepté. En dépit d'être son contemporain, ils n'ont pas eu la chance de rencontrer le Messie Promet l'Islam, parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers d'entreprendre ce voyage. Or, aujourd'hui, les Ahmadis d'autres pays participent dans la Jalsa Sarana de ce pays dans lequel est présent un humble serviteur et le calife du Messie Promet à l'Islam. Nombre d'Ahmadis de ces pays étrangers sont assis devant moi. Voir nombre de non-Ahmadis des pays limitrophes qui désirent connaître la véracité du Messie Promet à l'Islam participent dans ces Jalsa. Ainsi, il est fort plaisant de constater que Dieu a changé la condition de nombre d'Ahmadis et le message du Messie Promet l'Islam est transmis à une plus grande vitesse dans le monde entier. Or, il incombe aux descendants de ces aînés de la communauté d'effectuer leur analyse de conscience. Jusqu'à quel point avons-nous grandi dans notre relation avec Dieu? Jusqu'à quel point avons-nous grandi de notre foi et dans le respect des préceptes de Dieu? Si comparé au sommet qu'avaient atteint nos aînés dans le domaine de la vertu, certains membres de nos familles sont dans une phase de décadence accélérée, eh bien, nous avons beaucoup de soucis à nous faire à propos de notre condition. Notre aisance financière et notre confort ne seront d'aucun avantage. Nous serions en train d'acquérir les biens de ce monde, mais nous n'aurions rien accompli dans le domaine de la spiritualité. Puis vient un temps quand l'homme s'empêtre entièrement dans les choses de ce monde, coupant ainsi toute relation avec Dieu. Et c'est ainsi qu'il s'abaisse aux yeux de Dieu et qu'il tombe dans le giron de Satan. Pour ces gens, venir à la Jalsa n'est qu'une tradition. Notre présence à la Jalsa doit mettre en exergue nos faiblesses. Notre présence à la Jalsa doit opérer en nous une révolution. Notre présence à la Jalsa Sarana doit nous pousser à être reconnaissants envers Dieu. Notre aisance financière doit nous faire mériter les faveurs divines. Nous devons prier pour que nos enfants ne s'attirent pas à la colère divine. Nous devons prier pour que nous ne nous attirions pas à la colère divine. Nous devons faire des efforts en ce sens. Et nous devons faire de sorte que nous puissions mériter les prières de nos aïeux et être à la hauteur de leurs attentes. Par la grâce d'Allah, la Jamaat ne cesse de grandir dans les quatre coins du monde. Allah ne cesse de guider les gens, les menant ainsi à la Jamaat du Messie Promis alayhi salam. De l'est à l'ouest, du nord au sud, les gens sont en train d'embrasser la Jamaat du Messie Promis alayhi salam. Ce sont des personnes qui se joignent à la Jamaat afin d'affiner leur foi, afin de renforcer leur relation avec Dieu. Prions pour que ces personnes puissent atteindre les objectifs de la Jalsa, qu'Allah fasse que leur cœur ne cesse de souffrir davantage. Que ces personnes puissent tenir en compte les objectifs pour lesquels le Messie Promis l'Islam avait organisé la Jalsa Sarana, à savoir la nécessité d'établir un lien avec Dieu, la nécessité de respecter ses injonctions, l'importance de s'acquitter de ses devoirs envers ses frères et l'effort à entreprendre pour répandre le message d'Allah dans le monde. Pour atteindre ces objectifs, il faudra accorder sa conduite aux préceptes de Dieu. Il faudra aussi consentir à des sacrifices. Ainsi donc, cette jalsa n'est ni une foire mondaine, cette jalsa n'est ni un moyen pour atteindre des objectifs mondains. Celui qui se présente à la jalsa doit consacrer son attention au dhikr d'Allah, au souvenir d'Allah, car c'est un moyen pour renforcer sa relation avec Dieu, c'est un moyen pour mériter ses faveurs. D'autre part, il nous incombe d'intégrer dans notre quotidien ces vertus qu'enjoint Allah. Nous devrons faire en sorte que ces vertus fassent partie intégrante de notre vie. À propos du dhikr, du souvenir d'Allah, sachez aussi que lorsqu'on est en compagnie des autres, quelle que soit la nature de ce dhikr, qu'elle soit individuelle ou pas, ce dhikr est d'ordre collectif. Ainsi donc, l'individu en profite et la jamaat aussi, la collectivité aussi en profite et s'attire grâce à ce souvenir d'Allah, les faveurs divines. Ainsi, tout en écoutant les discours de la jalsa, consacrez-vous au souvenir de Dieu. Et quand l'homme se consacre au souvenir de Dieu en de telles rencontres, les autres aussi s'y consacrent. En se voyant les uns les autres, on essaye de donner un sens à ces jours. Au lieu de se consacrer à des conversations inutiles, au lieu de parler de tout et de rien durant ces jours, nous devrions, nous tous, assigner un objectif durant ces jours. On doit rendre utile ces jours. Les effets des habitudes que l'on a prises durant ces jours perdurent pour quelque temps par la grâce d'Allah. Mais si l'on est vigilant à cet égard, eh bien, ces habitudes vont durer encore plus longtemps. C'en est là une faveur divine des Jalsa Salana. Les prières d'un individu lui est avantageux. Ces prières accentuent aussi le progrès collectif de la Jamaat. Ces prières attirent aussi l'attention des autres vers Allah. Et ces prières deviennent un moyen pour qu'ils puissent atteindre les objectifs de la Jalsa Salana. Durant ces jours, chacun d'entre nous doit suivre la voie que nous a prescrite le Messie promis les salam et nous devrions être à la hauteur de ses attentes. Il faudra renforcer sa relation avec Dieu et il faudra remplir les cœurs des hommes de l'amour de leurs congénères. Il faudra aussi respecter les sentiments de ses frères. Si on est venu à la Jalsa avec de la rancœur à l'égard d'un tel, il faudra s'en débarrasser. Quand nous allons établir un lien avec Dieu, quand nous allons éprouver de la sympathie à l'égard de sa création, c'est là que nous pourrons transmettre aux autres, comme il s'y est, le message de Dieu. Or, des efforts sont requis afin que l'on puisse parcourir ces voies. La condition ici est l'effort. Ces jalsa ont pour vocation d'offrir un environnement spirituel propice aux autres, un environnement où l'on parle de bien, un environnement où l'on se souvient de Dieu, afin que nous puissions adopter ces habitudes qui nous mèneront à Dieu. Le Messie promis alayhi salam dit à cet effet, « Ce monde est éphémère, et tôt ou tard, il faudra le quitter. » Ce monde recèle en son fort intérieur les agents qui causeront sa destruction. Et ces agents sont à pied d'œuvre, mais les hommes n'en sont pas au courant. D'où l'importance de reconnaître Dieu au plus vite. celui qui reconnaît Dieu en tire plaisir. Les prières de celui qui ne lui est point sincère et fidèle ne sont pas exaucées. Cette personne est toujours accompagnée de quelque aspect ténébreux. Mais si vous faites le moindre pas dans la direction de Dieu, Dieu en fera davantage dans votre direction. Cependant, le premier mouvement est requis de votre part. Le Messie premier alayhi salam ajoute : d'aucuns se plaignent de n'avoir rien acquis en dépit de toutes leurs bonnes œuvres, en dépit de leurs prières, en dépit de leurs jeûnes, en dépit de leurs aumônes et de leurs efforts. Pareils gens vivent dans le doute perpétuel. Ils ne croient pas dans la raboubia de Dieu. Ni n'ont-ils accompli toutes ses œuvres pour la cause de Dieu. Si une action est accomplie pour la cause de Dieu, il est impossible qu'elle soit vaine. Il est impossible que l'on ne soit pas récompensé pour cette œuvre ici-bas par Dieu. Ainsi, afin de nouer une relation avec Dieu, nous devrons l'adorer en toute sincérité et nous devrons aussi respecter toutes ses injonctions. Si nos œuvres ont pour objectif le plaisir de Dieu, nous allons attirer ses faveurs. Nous devrons sortir des ténèbres de ce monde et nous évertuer sincèrement à chercher le plaisir de Dieu. De par sa grâce, Allah nous envoie ses bien-aimés, ses prophètes, afin qu'ils nous réforment. Et nous sommes chanceux d'avoir accepté l'envoyé de Dieu à notre époque. L'envoyé de Dieu qui nous a enseigné la méthode pour aimer Dieu, pour aimer son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et pour aimer la foi. Lui qui nous a démontré comment appliquer cette méthode. Il nous a aussi démontré comment nous acquitter de nos devoirs envers Dieu, comment nous acquitter de nos devoirs envers ses créatures, comment éviter les maux individuels et collectifs. Lui qui nous a montré comment éviter les maux qui affectent les nations entières, comment réformer nos croyances et notre conduite. Si nous ne sommes pas vigilants à cet effet, même après lui avoir prêté allégeance, eh bien, nous ne serions pas en train d'assumer nos responsabilités. Les prophètes ont pour mission de transformer radicalement la vie de leurs disciples, de changer entièrement leur conduite. Dieu avait montré au Messie premier l'Islam dans une vision qu'il avait créé une nouvelle terre et un nouveau ciel, et Dieu lui a demandé de créer un homme nouveau. La création de cette nouvelle terre, de ce nouveau ciel, et la création de cet homme nouveau, et cette révolution que le Messie premier l'Islam a opérée dans la vie de ses compagnons. Ce fut le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous présenta l'exemple le plus parfait de la création d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel. Il est l'exemple parfait dans ce domaine. Il a établi sur la voie de l'unicité de Dieu ceux qui étaient naguère les ennemis de la tawhid, de l'unicité de Dieu. Ceux qui naguère adoraient des idoles et rejetaient Dieu n'ont cessé de proclamer « Ahad, Ahad », à savoir que Dieu est unique. En endurant mille et une persécutions, ils ont offert leur vie afin d'offrir la tawhid. Ceux qui naguère n'avaient aucune notion de l'existence de Dieu étaient si épris de Dieu que leur nourriture était l'adoration de Dieu et son souvenir. Ils passaient leur journée à jeûner, ils passaient leur nuit à prier. Leurs épouses aussi avaient sacrifié leur sommeil dans leur désir d'adorer Dieu et dans le désir de grandir dans leur relation avec lui. Et elles cherchaient différents moyens afin de pouvoir se maintenir éveillées pour se consacrer à l'adoration de Dieu. Il est dit à propos d'une de ces dames, d'une de ces disciples du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qu'elle avait tendu une corde auquel elle s'accrochait pour se maintenir éveillée. Ses compagnons se sacrifiaient les uns pour les autres. Ils étaient prêts à offrir leurs biens à leurs frères. Ils leur ont offert leurs biens. Mais ceux qui avaient reçu ces biens s'étaient eux aussi transformés radicalement. Ils ont remercié leurs frères pour leur donation. Ils ont prié pour leurs biens et les ont félicités et leur ont demandé de leur montrer le chemin du marché pour y trouver du travail. Au lieu de manger à la table d'un autre, ils préféraient gagner leur pain au prix de leur labeur. Ils ont été de grands exemples de véracité et d'honnêteté. Un jour, un musulman acheta un cheval au prix de 100 dinars à la campagne pour venir le revendre à la ville. Au marché, un autre musulman apprécia le cheval et ajouta que ce cheval valait 200-300 dinars. Le propriétaire du cheval ajouta qu'il ne valait que 100 dinars et qu'il ne pourrait pas prendre un dinar de plus. Eux qui, auparavant, aimaient à ce point les richesses de ce monde qu'ils trompaient les autres afin de se remplir les poches davantage. Ils avaient atteint un tel niveau dans le domaine de la véridicité qu'ils disaient qu'ils ne prendraient pas un sou de plus. Voilà le grand exemple qu'a laissé ces personnes. Voilà le changement qu'a apporté le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accordé à la femme un statut, a établi son honneur dans la société. Il lui a accordé cet honneur dans cette société où elle n'en jouissait d'aucun. C'est là quelque chose de grandiose. Cela perdure jusqu'à présent. Le deuxième calife a comparé la condition de la femme dans la société d'aujourd'hui et dans le passé, et il nous a présenté une vérité à ce sujet. Aujourd'hui, les hommes annoncent sur tous les toits qu'ils ont accordé aux femmes leurs droits. Dans le passé, les hommes tourmentaient, frappaient les femmes en croyant que pareil sévice était permis. Aujourd'hui encore, les hommes tourmentent et frappent leurs femmes comme dans le passé. Cela se passe aussi en Europe et ailleurs dans le monde. Dans ces pays où les hommes se posent en grand défenseur de la liberté de la femme, il y a des avocats devant moi, ils sont au courant de ces cas. La différence est qu'aujourd'hui, tout en frappant son épouse, l'homme affirme que c'est là un acte illégal. Auparavant, il tourmentait la femme, il la frappait, lui privait de ses droits, considérant que c'était là des actes permissibles. Aujourd'hui, il commet ces infamies tout en annonçant que ce sont là des actes interdits. L'action est la même, mais les déclarations ont changé. Ainsi, dans chaque domaine, nous voyons une révolution apportée par l'entremise du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le Messie promis l'Islam nous explique que le saint prophète a transformé des créatures pires que des animaux en êtres humains pour ensuite en faire des êtres cultivés, pour en faire des hommes de Dieu. Ce fut là un grand miracle occasionné par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les actions de ces hommes de Dieu avaient pour objectif le plaisir de Dieu. Voilà en somme cette nouvelle terre, ce nouveau ciel que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a créé. Aujourd'hui, Dieu a demandé au serviteur parfait du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, de créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Les musulmans d'aujourd'hui partagent-ils la même condition spirituelle et morale que celle des musulmans de l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Sont-ils dans le même état moral et spirituel que les musulmans de l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non, il n'en est pas ainsi. L'ignorance qui prévalait avant l'avènement du saint prophète Mohammed paix soit sur lui prévaut de nouveau aujourd'hui. C'est pour cette raison que Dieu a envoyé son Messie et son Mahdi à notre époque comme il l'avait promis. À une époque, les musulmans avaient offert leur vie pour établir la tawhid, l'unicité de Dieu. Ils ont consenti à tout type de sacrifice. Ils ont répandu le message de l'islam. Ils ont apporté un grand changement dans le monde. Or, aujourd'hui, les musulmans d'aujourd'hui, au lieu d'adorer un seul Dieu, sont en train de se prosterner devant des tombes, sont en train de demander aux défunts d'exaucer leurs suppliques et sont coupables de polythéisme. La parole « La ilaha illallah » existe encore, mais cette parole n'apporte aucun changement, car ceux qui énoncent cette parole en ignorent le sens. Ceux qui croient dans cette déclaration ne connaissent pas le sens de cette parole. Ils ne sont musulmans que de nom. Certes, parmi les musulmans, il y a d'aucuns qui prient 5 fois par jour, qui font acte d'adoration 5 fois par jour. Au cours de leur salat, au cours de l'appel à la prière, ils témoignent de l'unicité de Dieu, mais leurs œuvres ont des relents de polythéisme. Au Pakistan, par exemple, il y a des intellectuels, il y a des ministres, il y a des ambassadeurs qui vont adorer des saints. La majorité d'entre eux n'accomplissent même pas la salat. Ils croient qu'ils s'acquittent de leur devoir de musulmans en qualifiant les Ahmadis de mécréants et en suivant les mollahs. Ensuite, il y a ces organisations extrémistes qui se revendiquent de l'islam et qui connaissent qu'un seul terme, qui est le djihad. D'ailleurs, ils en font une interprétation erronée. Ils ne sont pas là pour encourager l'autre à suivre la tawhid, l'unicité de Dieu. Ils sont là pour détourner les hommes de la religion. Ils sont là pour détourner les hommes de l'islam. Le Messie promis à l'islam devrait apparaître au cours d'une période pareille, afin qu'il puisse créer une nouvelle terre et un nouveau ciel, afin d'occasionner une révolution. Et il a montré qu'il a occasionné cette révolution. Le deuxième calife raconte l'histoire d'un brigand notoire à qui on avait demandé de montrer un signe de la véracité du Messie promis à l'Islam. On lui a demandé s'il avait vu un signe de la véracité du Messie promis. Ce grand brigand a dit à ses détracteurs, « Pourquoi demander des signes? Je suis moi-même un signe de la véracité du Messie promis à l'Islam. » Il m'a complètement transformé. Il a coupé toutes ses relations avec les autres voleurs et cessa ses brigandages et se consacra à la prière. Ainsi, le Messie promis à l'Islam a créé une nouvelle terre et un nouveau ciel et il a transformé la vie de centaines de milliers de gens. Et il nous a montré comment créer une nouvelle terre et un nouveau ciel. Nombre d'entre nous avons vu d'innombrables exemples de ce genre. Nous avons vu des signes à ce propos. Nous avons entendu et lu des récits à propos de nos aînés à ce sujet. Nous avons vu la condition de nos aînés et tout cela a rafraîchi notre foi. Or, cette vision qu'avait vue le Messie promis à l'Islam attire aussi l'attention de la Jamaat, quant à la création de ce nouveau ciel, de cette nouvelle terre. En étant au sein de sa Jamaat, nous devrons examiner l'ampleur des efforts que nous sommes en train d'entreprendre pour créer cette nouvelle terre et ce nouveau ciel. Tentons-nous d'atteindre le même niveau que les compagnons, ces compagnons qui avaient adopté les véritables enseignements de l'islam, ces compagnons qui avaient créé aussi une nouvelle terre et un nouveau ciel. Avons-nous atteint le même niveau que ces compagnons ou pas? Avons-nous apporté de si grands changements en nous que les autres sont prêts à témoigner que nous nous sommes entièrement transformés? Sont-ils prêts à témoigner que nous avons créé cette nouvelle terre et ce nouveau ciel? Nous devrons être la plus grande preuve que le Messie promis alayhi salam a créé une nouvelle terre et un nouveau ciel. Notre personne doit être le plus grand exemple que le Messie promis alayhi salam a créé cette nouvelle terre et ce nouveau ciel. Notre priorité doit être l'établissement de la Tawhide. Nous devrons renforcer notre relation avec Dieu. Nous devrons faire de notre mieux pour suivre les commandements de Dieu. Nous devrons aussi nous acquitter de nos devoirs envers les hommes. Et nous devrons être vigilants à ce propos. Nous ne devons pas nous contenter d'avoir accepté le Messie promis à l'Islam. Nous devrons aussi apporter des changements pratiques en nous. Et les gens doivent dire que nous nous sommes entièrement transformés, que nous sommes des hommes nouveaux. Hazrat Muslim Maoud, le deuxième calife, nous explique brillamment dans un endroit que le Messie promis l'Islam a montré deux types de signes. La première catégorie concerne ces signes que Dieu lui-même doit accomplir. La deuxième catégorie concerne ces signes dont l'apparition dépend de nos actions. Ces signes dépendent de nous et nous devrons nous évertuer à les accomplir. Nous devrons faire des efforts, faire de notre mieux afin d'accomplir ces signes. Il y a des types de savoirs qui ne sont compris que par le prophète. S'il n'en était pas ainsi, eh bien, nous n'aurions pas besoin de prophète. Le Messie promis l'Islam nous a expliqué des choses après 1400 ans, des choses qui existaient déjà mais que les musulmans ignoraient, des choses que les musulmans n'avaient pas compris. On peut prendre par exemple le fait que toutes les religions sont vraies. Le Messie promis l'Islam nous explique que le prophète qui a des centaines de milliers de disciples, le prophète qui a été accepté par nombre de personnes qui ont été guidées dans la bonne direction, eh bien, certainement, ces prophètes sont vrais. Certes, il se peut qu'on ait corrompu leurs enseignements par la suite. Il se peut que cette religion ne soit pas dans son état originel, tout comme l'on peut voir dans le cas du prophète Bouddha, de Zoroastre, de Krishna, qui, à leur époque, étaient des envoyés de Dieu, et qui était accompagné de la vérité. Avant le Messie promis l'Islam, il y a eu de grands aînés, de grands saints qui sont passés. Certes, ils ne condamnaient pas les prophètes ou les leaders des autres religions, mais ils avaient des doutes à ce sujet. Ils n'avaient pas de satisfaction à ce sujet. Et ils ne connaissaient pas la réalité à propos de ces prophètes d'antan, de ces leaders des autres nations. En tout cas, si les disciples d'un prophète acceptent ces enseignements, eh bien, leur situation est bien meilleure que les autres. S'ils mettent en application les préceptes de leur prophète, eh bien, le monde sera en paix. Et on pourra voir un changement extraordinaire dans le monde. Si l'on voit que les résultats de ces enseignements sont néfastes, eh bien, ces enseignements sont néfastes. les enseignements de tous ces prophètes condamnaient Satan. Si c'était des enseignements sataniques, eh bien personne ne les aurait suivis. Voilà le principe qu'a énoncé le Messie promis d'Islam. Ce point était présent dans le Saint-Coran, mais personne n'a pu l'expliquer, personne n'en était au courant. C'est le Messie premier d'Islam qui nous a expliqué ce point. Et aujourd'hui, en dépit du fait que nombre de musulmans n'acceptent pas le Messie premier d'Islam, ils annoncent au monde et ils disent que la base de toutes les religions était la vérité. Toutes ces religions étaient fondées sur la vérité. Il y a nombre de musulmans, des intellectuels parmi les musulmans, qui disent aux adeptes des autres religions que notre religion est des plus belles parce que notre religion annonce que vos leaders religieux, vos prophètes, sont venus de la part de Dieu. Ensuite, il y a la croyance que Jésus-Christ est monté physiquement au ciel. La majorité des intellectuels musulmans ont rejeté cette croyance et même des oulémas au Pakistan disent que personne n'est monté au ciel, personne ne viendra. Ainsi, avec l'avènement du Messie premier d'Islam, les autres ont changé leur opinion et c'est cela aussi la création d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel. Tout cela prouve que le Messie premier d'Islam a effectué ces changements. Voilà les signes que Dieu est en train d'accomplir. Mais il y a cette autre catégorie de signes, le fait de créer cette nouvelle terre et ce nouveau ciel, le fait de le faire dans la pratique. C'est à nous, les suivants du Messie promis d'Islam, que revient cette tâche, que de créer cette nouvelle terre et ce nouveau ciel. Nous devons créer cette nouvelle terre, ce nouveau ciel, et pour cela, nous avons changé nos croyances, mais nous avons aussi prêté allégeance au Messie promis d'Islam. Mais il y a aussi cette nouvelle terre que nous devons créer, et cela dépend de nos efforts. Un nouveau ciel ne suffit pas, tant que la terre, elle aussi, n'est pas meilleure, n'est pas bonne. Et il est important qu'il y ait une bonne terre. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré que le cœur du croyant est comme une terre. Il ne suffit pas que nos cœurs soient propices pour accueillir ces nouvelles doctrines, mais nos cœurs doivent être aussi propices pour cette nouvelle conduite, pour ces actions. Dieu nous a accordé la possibilité d'accepter le Messie promis d'Islam. C'est une faveur qu'il nous a accordée. Il désire que notre conduite soit vertueuse grâce au Messie promis d'Islam. Et il désire que nous réformions la terre. Par l'entremise du Messie promis d'Islam, Dieu nous a enseigné cette méthode où le Messie promis d'Islam nous a présenté cette formule ou ces épices et c'est à nous que de les utiliser. Est-ce que nous sommes en train d'accomplir cette tâche ou pas? Voilà la question à poser. Tout comme je l'ai dit dans le passé, si nous nous acquittons de nos devoirs envers Dieu et si nous sommes en train de nous acquitter de nos devoirs envers les hommes, si nous avons de bonnes relations avec Dieu et avec sa création, et si nous sommes distingués dans ces relations, eh bien certainement, nous sommes en train d'aider le Messie promis d'Islam à créer cette nouvelle terre et ce nouveau ciel. J'ai attiré votre attention concernant nombre de faits qui ont été mentionnés par le Messie promis d'Islam. Il y a un point fondamental, à savoir que chaque commandement du Saint-Coran doit apporter à nous des changements. Et tout comme le Messie promis d'Islam nous l'a expliqué, cela doit créer en nous cette nouvelle terre et ce nouveau ciel. Et nous devrons adopter ces enseignements, nous devrons les mettre en pratique et chacun d'entre nous doit créer cette nouvelle terre et ce nouveau ciel. Et c'est là que nous pourrons accorder des avantages aux autres. Le Messie promis d'Islam déclare que je constate que les hommes font des plans, mais qu'ils sont négligents à propos de la prière. Au contraire, ils accordent tant d'importance aux plans et aux moyens qu'ils ont fait de ces plans et de ces moyens des dieux et ils se moquent de la prière et ils considèrent la prière comme quelque chose de futile. C'est là un poison dangereux qui est en train de se répandre dans le monde, mais Dieu désire éloigner ce poison. C'est ainsi qu'il a établi cette communauté. Il a établi cette communauté pour cette tâche, afin que l'homme puisse connaître Dieu et afin qu'il puisse connaître la réalité de la prière et l'effet de la prière. C'est un objectif que tout Ahmadi doit avoir en tête et tout Ahmadi doit grandir dans sa relation avec Dieu. Ensuite, le Messie Promet alayhi salam a déclaré « Nous sommes en train de vivre une époque d'une guerre spirituelle. La guerre contre Satan a débuté. Satan a pris toutes ses armes, toutes ses subterfuges pour s'attaquer à la forteresse de l'islam et il désire faire échouer l'islam. Cependant, Dieu a fondé cette communauté afin de vaincre Satan pour toujours dans cette dernière guerre. Ainsi, tout Ahmadi doit participer dans cette guerre spirituelle et tout Ahmadi doit aller de l'avant. Et cela ne pourra se faire tant que nous n'avons pas créé cette nouvelle terre spirituelle, ce nouveau ciel spirituel. Le Messie Premier Islam a déclaré que Dieu a fondé cette communauté afin de vaincre Satan pour toujours. En énonçant cette parole, le Messie Premier Islam a confié la responsabilité à chacun de ses disciples que de progresser dans sa spiritualité et de combattre Satan et de s'acquitter de ses devoirs envers Dieu. Il dit à ce propos, « Sachez que Dieu a donné deux types d'ordres. Il a déclaré que tout d'abord, on doit lui associer personne. On ne doit lui associer personne ni dans ses attributs, ni dans ses adorations. D'autre part, il faudra éprouver de la sympathie à l'égard des hommes. Ihsan ne signifie pas faire montre de sympathie à l'égard de ses proches. Il faut avoir de la sympathie à l'égard de tout le monde, quelle que soit son origine. Il ne faut point se dire qu'il est un hindou, qu'il est un chrétien. Je vous dis en toute vérité que Dieu a pris entre ses mains l'équité. Il ne désire pas que vous vous vengiez vous-même. C'est Dieu qui va vous venger. Soyez bon et doux. Autant vous serez bon et doux, autant vous serez humble, autant Dieu sera content de vous. Laissez entre les mains de Dieu vos ennemis. Qu'Allah fasse que nous puissions, nous tous, nous acquitter de tous nos devoirs et que nous soyons à la hauteur des attentes du Messie Promet alayhi salam dans nos croyances et dans notre conduite. Que nous puissions créer une nouvelle terre et un nouveau ciel. Que nous soyons de ceux qui vont créer cette nouvelle terre et ce nouveau ciel, ceux qui vont aider le Messie Promet alayhi salam à atteindre cet objectif. Qu'Allah bénisse cette jalsa et qu'Allah fasse que ceux qui sont présents ici puissent mériter ces innombrables faveurs. Écoutez les discours au cours de la jalsa avec attention faite, de sorte que ces discours fassent partie intégrante de votre vie. Tous ces discours sont intéressants, qu'Allah vous en accorde la possibilité d'agir ainsi.